Chapitre 6. Villa Ben Khalif, 17h23. Vous êtes vraiment des amis indignes. Ilyan et moi, on aurait pu y passer et au lieu de nous soutenir dans cette épreuve, vous avez tous préféré passer votre soirée ailleurs, à faire je ne sais quoi. Ça fait environ 10 minutes que Mathieu essaie de nous culpabiliser. Nous sommes tous réunis dans le grand salon de la villa, à part Ilyan, qui est allé se laver. Amir et Aïmen regardent Mathieu avec une indifférence non dissimulée, tandis que je tente de faire abstraction de ses cris. Ce matin, Amir m'a dit qu'Aïmen et plusieurs de ses hommes étaient allés sur les lieux de l'accident d'Ilyan et Mathieu. Ils ont constaté qu'une voiture leur était rentrée dedans. Ça peut ressembler à un accident banal, mais un expert scientifique qu'Amir a embauché a remarqué quelque chose de suspect. Selon les traces laissées sur la chaussée, il a pu déduire qu'un camion aurait volontairement foncé sur eux. Ils ont eu de la chance que le choc ne soit pas plus grave, qu'ils soient attachés avec leur ceinture de sécurité et que les airbags soient activés. Il s'agissait donc d'une tentative de meurtre. Ils ont été suivis, puis l'accident a été provoqué. Encore un coup de l'autre lâche. Je ne comprends pas à quoi il joue. Il essaie de se faire passer pour quelqu'un qui me veut du bien en m'ouvrant les yeux sur tout ce qui se trame dans mon dos, et ensuite, il essaie de tuer les gens que j'aime. Il est responsable de la mort de Sam, mais aussi de celle d'Hakim, même si je détestais cet homme. Depuis quelque temps, je ne fais que ressasser la mort d'Hakim qui a été empoisonnée et qui est mort dans mes bras. Avant de mourir, il m'a dit qu'une personne avait réussi à le tuer. Désormais, il semble évident que cette personne est Monsieur X. Pourtant, Hakim avait tout de Monsieur X puisque j'avais découvert qu'il était responsable de tous les pièges dans lesquels j'étais tombée. Or, si Hakim avait été Monsieur X, ce jeu du chat et de la souris aurait dû s'arrêter au moment de sa mort. Quel rôle avait donc Hakim dans cette histoire? Je relève la tête. Les trois hommes rigolent ensemble. Ils ont l'air de tellement s'aimer et se respecter que ça me réchauffe le cœur. J'aime rentrer dans la villa et entendre leurs rires ou même leurs cris, ainsi que ceux d'Iliane. Ils font désormais partie intégrante de ma vie. J'essaie de ne pas trop m'impliquer émotionnellement car je sens que tout ceci est éphémère. Mais c'est plus complexe que prévu. Je comprends Ilyan quand il a dit qu'il préférait partir d'ici avant de s'attacher à nous. Pour moi, c'est trop tard. Je tiens à chacun d'eux. Mais quand toute cette histoire sera finie, on sera obligé de se quitter. Aïmen et Amir poussent Mathieu en rigolant. Je sais que ces deux-là me manipulent et qu'ils me mentent depuis le début. Néanmoins, je n'arrive pas à les détester. Je n'oublierai jamais le nombre de fois où ils m'ont sauvé la vie. Mathieu hurle sous leur rire moqueur. Je suis heureuse qu'il se sente à sa place ici et qu'il puisse exprimer sa véritable nature. Je sais qu'il les aime comme s'ils étaient du même sang. Parfois, je me surprends à espérer qu'on ne découvre jamais l'identité de Monsieur X pour pouvoir rester le plus longtemps possible avec ceux qui ont su faire fondre mon cœur de glace. Je me questionne sur ce que je vais devenir quand on aura enfin battu Monsieur X. Si je survis, bien sûr. Il est clair que Mathieu restera avec eux. Ils forment un trio de choc et la séparation serait inconcevable. Tandis que moi...
Hé, je te parle.
Je secoue la tête et je remarque que Mathieu et Aïmen ne sont plus présents. Amir agite ses bras devant moi pour que je sorte de mes pensées. Tu disais ? Je demande.
Pourquoi tu nous regardais comme ça ?
Pour rien. Je pensais à Monsieur X. Il soupire.
Ne te prends pas la tête.
Me conseille-t-il. Tu es sûr que c'est une bonne idée de ne rien dire à Mathieu sur l'accident d'hier? Nous avons préféré taire à Mathieu et Ilyan qu'il s'agissait en fait d'une tentative de meurtre pour éviter de les inquiéter inutilement. Je suis quasi sûre qu'Ilyan pourrait mieux gérer que Mathieu, qui, telle une star, refuserait de sortir sans être escorté d'une dizaine d'hommes au moins.
Il ne vaut mieux pas qu'il sache.
Très bien.
T'es sûre que ça va? Je te trouve super pâle.
M'informe Amir. J'ai complètement oublié de contacter le docteur, obnubilé par la protection de Mathieu et Ilyan. Il faut que je me bouge pour savoir ce que j'ai. La fatigue sans doute. Il émet un petit sourire, se rapproche de moi et dépose un léger baiser dans mon cou, puis il se recule. Ensuite, il attrape ma taille et me colle contre lui, ce qui me fait échapper à un léger hoquet de surprise qui se transforme vite en un sourire en coin non dissimulé.
Faut dormir la nuit, poupée.
Se moque Amir. Si je ne dors plus ces derniers jours, c'est uniquement à cause de toi et de ton appétit sexuel.
Tu devrais t'estimer heureuse que je te laisse tranquille en journée.
Je vois cette lueur joueuse dans son regard et je rigole. Quand on parle ainsi, j'ai l'impression qu'on pourrait presque former un couple normal. Dommage qu'il y ait ce presque. Qui va veiller sur la sécurité des garçons? Je le questionne.
Mes hommes vont venir s'en charger pour ce soir car Ayman et moi avons des trucs à faire. Ensuite, Ayman prendra la relève.
Je hoche la tête.
Tu comptes sortir ce soir?
M'interroge Amir. Je vais aller voir Maria. Il hoche la tête puis lâche l'emprise qu'il a sur mon corps. Je me dirige vers la sortie d'un pas décidé.
Fais attention, poupée.
Je lui adresse un sourire et rejoins le garage. Je ne vais pas voir Maria, mais le médecin. J'ai trop négligé ma santé. Il est temps d'obtenir des réponses. Je sors la carte du docteur de ma poche ainsi que mon téléphone. Il a essayé de me joindre il y a quelques heures et m'a laissé un message vocal. Son téléphone sonne, mais il ne décroche pas. Je rappelle une dizaine de fois, en vain. Je m'inquiète qu'il ne réponde pas. J'envoie alors un message à Mathieu pour lui demander de localiser le numéro sans poser de questions et de n'en parler à personne. Évidemment, il en pose, mais je les esquive. Au bout de 5 minutes, je reçois la localisation. J'entre l'adresse dans le GPS et je suis la direction indiquée. Il risque de me prendre pour une psychopathe en me voyant débarquer à l'improviste. Maison Valli, 18h46. Je suis devant une maison blanche avec un immense jardin. Elle ressemble à celle dans les films où les familles vivent en plein bonheur avec leurs chiens. L'accès à la maison m'est impossible à cause du grand portail noir. Je sonne, mais personne ne répond. Je remarque le portail légèrement entrouvert, je décide d'entrer. Le jardin est fleuri de diverses plantes, toutes plus belles les unes que les autres. J'aperçois aussi une grande niche bleue et rouge. Je sonne à la porte d'entrée, mais là encore, aucune réponse. La porte est entrouverte également. Je me glisse à l'intérieur du domicile où règne un calme déroutant. Je longe un couloir jusqu'à ce que mes yeux entrent en contact avec une vision d'horreur, me provoquant un hurlement de terreur devant une scène effroyable. Le salon est entièrement recouvert de sang. Je me retiens de vomir. 2 enfants morts sont couchés sur le sol, avec les yeux et la bouche grande ouverte. Une petite fille et un petit garçon, ayant chacun un couteau planté dans le ventre. Une femme, sûrement la femme du docteur, est affalée sur une table basse. Une balle semble avoir été tirée en plein milieu de son visage. Quant au docteur, il est installé sur une chaise, ligoté comme un animal. Sa tête a été tranchée et elle est sur le sol à quelques mètres de son corps. Mon cœur se serre en découvrant cette pauvre famille assassinée par des brutes sans aucun scrupule. Je ne m'approche pas des cadavres afin de ne pas laisser mes empreintes sur le lieu de ce crime épouvantable. Pourquoi ont-ils été tués? Et pourquoi aussi brutalement? Je tente de reprendre mon calme, puis sors mon téléphone pour écouter le message que le docteur m'a laissé quelques heures plus tôt.
« Bonjour, mademoiselle. Sans nouvelles de votre part, je prends la liberté de vous contacter pour vous prévenir que ma famille et moi partons en voyage. Vous n'aurez donc plus la possibilité de me joindre. Je vous laisse le contact de ma secrétaire afin qu'elle puisse vous expliquer ce qui vous arrive et vous fournir vos résultats. Bonne continuation à vous. »
J'écoute le reste du message qui me dévoile le numéro de téléphone de la secrétaire en question. Hôpital, 20h46. Je me gare devant l'hôpital où je dois retrouver la secrétaire du médecin. Je retire ma ceinture, je descends de la voiture tout en claquant la portière. J'ai à peine le temps d'entamer ma marche qu'une femme me bouscule sans s'excuser. Elle court comme si elle était poursuivie par des assaillants. Je la vois se précipiter vers une ruelle sombre. Je hausse immédiatement les sourcils quand j'aperçois 2 hommes au bout de la rue qui semblent à la recherche de cette jeune fille. Ils n'ont pas l'air commodes. Ce qui m'interpelle, ce sont leurs armes qu'ils ne dissimulent pas. Cette fille est en danger. Je me mets à courir à mon tour vers la ruelle. Je vérifie que j'ai bien pris mon arme et laisse échapper un soupir de soulagement en constatant que c'est le cas. En arrivant dans la rue, je ne trouve pas la jeune femme. Elle n'a pas pu aller plus loin puisqu'un mur empêche de passer de l'autre côté. J'entends de légers reniflements derrière une des poubelles où elle s'est cachée. Ses yeux sont rougis par les larmes et ses mains sont sur sa bouche pour empêcher ses sanglots de la faire opérer. Elle est recroquevillée sur elle-même. Dès que son regard croise le mien, je ressens toute sa peur. Elle a dû comprendre que je n'étais pas avec les hommes, mais elle ne m'accorde pas sa confiance pour autant. Elle est belle, blonde aux yeux ronds et bleus, le teint pâle. Ses cheveux sont courts et lisses. Elle est fine et élancée. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Elle a une voix douce. Elle possède également un léger accent qui laisse penser qu'elle vient d'un pays de l'Est. Je ne veux pas te faire de mal. J'ai aperçu les deux hommes à ta poursuite et je suis venue t'aider. Elle me regarde, choquée et tremblante de peur. Qui êtes-vous? Me demande-t-elle. Ça n'a pas d'importance. Comment allez-vous m'aider? Ils vont nous tuer toutes les deux, ce sont des meurtriers. Deux femmes ne peuvent rien contre eux. Soupire-t-elle. J'ai pas le temps de t'expliquer, mais je suis ton seul espoir. Elle se mord la lèvre. Si je reste cachée, ils ne me trouveront pas. J'ai bien réussi à te trouver, moi, et dès qu'ils le feront, ils te tueront sans aucune pitié. Elle semble prendre conscience de la véracité de mes propos. Ses mains tremblent. Elle lève les yeux au ciel. Je suis sortie de l'hôpital et ces deux hommes m'attendaient. Je me suis mise à courir dès que j'ai vu leurs armes et la façon dont ils me regardaient. Je les avais jamais vus, je le jure. Tu t'appelles comment? Anastasia. Comme l'une de mes princesses favorites. Tu étais une patiente de l'hôpital? Non, j'y travaille. Je hausse les sourcils. La coïncidence est bien trop forte. Comme quoi? Secrétaire. J'écarquille les yeux. Je prie intérieurement pour que ce ne soit pas ce que je pense et que cette femme ne soit pas la secrétaire du docteur Valli. Cela signifierait que je suis la responsable de tout ça. Ne me dis pas que t'es la secrétaire du docteur Valli. Elle me regarde, surprise. Comment le savez-vous? Vous le connaissez? S'étonne Anastasia. Alors c'est ma faute? Il ne t'aurait pas donné quelque chose à remettre à une certaine Chiara? Je prends l'enveloppe, la plie et la range à l'intérieur de mon soutien-gorge sous son regard apeuré. Tous les liens sont en train de se connecter dans mon cerveau, mais ce n'est pas le moment de faire un récapitulatif dramatique de ma situation. C'est toi, Chiara? Je t'expliquerai tout, mais pour l'instant, on doit sauver la vie. J'analyse notre environnement. Des poubelles, des ordures étalées un peu partout, quelques rats qui font des allers-retours et un chat mort à quelques mètres de nous. Je réfléchis en vitesse et sors un couteau de ma botte. Je me lève rapidement sous son regard terrifié. Je me dirige vers le cadavre du chat mort. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» me demande Anastasia en se tenant le cœur. « Sauver tes fesses. » Un haut le cœur me prend quand je pose les yeux sur le chat puis je respire un bon coup. Je suis sincèrement désolée, mais si ça peut permettre de protéger une vie, je plante mon couteau dans son ventre en l'entaillant vivement. « Mais c'est immonde !» s'offusque-t-elle. « Je le sais. Il est déjà mort, contrairement à toi qui risque de souffrir si les deux autres te retrouvent. » Je lui explique. Anastasia laisse échapper un petit cri de dégoût tandis que je suis en train d'ouvrir le corps de cet animal, d'où le sang coule abondamment. « Viens par ici. » J'ordonne. Elle affiche son dégoût. « Quoi? Mais c'est dégueulasse !»« Soit tu viens et tu survis, soit tu continues d'avoir des états d'âme. » Elle hésite, mais se lève pour se rapprocher de moi. Je prends le corps du chat rempli de sang et la recouvre avec celui-ci. Nous sommes toutes les deux dégoûtées par l'opération, c'est un calvaire. Après l'avoir recouverte de sang, je me redresse et cache le corps du chat derrière la poubelle. « Donne-moi ton téléphone, ton portefeuille et tous tes objets de valeur. » Son écœurement non dissimulé semble parti puisqu'elle s'exécute en vitesse en me donnant son portefeuille, ses boucles d'oreilles et sa montre en or. Enfin, elle me tend son téléphone. Je cache tout ça derrière moi. « Désolée, ça me fait pas plaisir, mais c'est nécessaire. » Je lui donne alors un coup de poing dans l'œil. Elle laisse échapper un gémissement de douleur et elle se met à marquer rapidement. Pour que ce soit crédible, il faut que tu sois blessée. Je lui explique. Elle hoche difficilement la tête. Va te coucher au milieu de la ruelle et fais la morte. Aucun bruit et tu ne clignes pas des yeux, tu comprends? La réussite de ce plan dépend de ta capacité à simuler ta mort. Elle hoche frénétiquement la tête en tentant de masquer sa crainte. Et s'ils comprennent que je suis vivante? Imagine qu'ils touchent mon pouls. J'espère qu'ils ne le feront pas. Il faut compter sur la chance. Ce sont des hommes de main. Il faut qu'on compte sur le fait que ce ne sont pas des lumières. Ils sont embauchés pour leurs bras et non pour leur cerveau.
Et s'ils le font quand même?
On passe au plan B. Tu captes leur attention et je me charge de les buter avec mon arme. Je réponds en haussant les épaules. Le plan B ne me plaît pas, il pourrait causer des dommages collatéraux.
Mais d'où tu sors exactement?
M'interroge Anastasia en ouvrant grand les yeux. Elle se retient de fondre à nouveau en larmes. Je peux voir sa peur dans ses yeux. Je prends sa main dans la mienne et lui adresse un sourire rassurant. Fais-moi confiance. Je serai là pour prendre la relève au cas où ça tourne mal. Je vais te protéger. Tu as ma parole. Tu peux le faire, tu vas t'en sortir. Je crois en toi. Anastasia hoche vivement la tête pendant que je lâche sa main. Elle attrape son sac et s'allonge au milieu de la ruelle. Elle ressemble à une femme victime d'un vol qui aurait mal tourné. J'espère qu'elle ne paniquera pas quand ils arriveront et qu'elle continuera de jouer son rôle, sinon ça risque de sérieusement déraper. Il est temps maintenant de piéger les loups. Je sors mon arme rangée à l'arrière de mon pantalon et tire un coup dans le mur en face de moi. En quelques secondes, les deux hommes débarquent avec leur arme en main. Dès qu'ils voient Anastasia au sol, ils s'approchent de son corps. Le premier homme est grand, métis, il a les cheveux bruns avec une multitude de tatouages sur le visage. Le deuxième est un homme blanc avec le crâne rasé et une grosse cicatrice qui démarre de son oreille jusqu'à son nez. Ils doivent avoir la trentaine. Depuis ma position, j'arrive à les entendre.
Elle est morte.
Lâche le brin.
Elle a dû se faire attraper par un voleur. Regarde son sac. Toutes ses affaires sont éparpillées et elle n'a plus la montre en or qu'elle avait au poignet.
Ajoute le chauve. L'homme métis se dirige vers son sac et fouille à l'intérieur, puis il se redresse et pousse un juron.
Évidemment, ce fils de pute a pris ce qu'on était venu chercher.
Jure le brin.
Le patron ne va pas être content. On ne sait rien de ce voleur. On ne saura jamais ce que l'autre pute a.
Complète son collègue. L'autre pute. Une insulte charmante pour me qualifier. Tout ça juste pour savoir la maladie que j'ai.
On va se faire allumer.
Soupire le brin.
Faut qu'on se tire d'ici avant que la police débarque. Qu'est-ce qu'on fait du corps? On le brûle?
Questionne le chauve. Je frôle mon arme.
T'es con ou quoi? Un incendie criminel, ça ne serait pas discret. C'est juste une pauvre secrétaire qui était au mauvais endroit au mauvais moment.
Rétorque le brin. Son collègue hoche la tête avant d'ajouter.
Tirons-nous d'ici, ça pue le sang.
Les deux hommes tournent les talons et se retrouvent rapidement hors de mon champ de vision. Anastasia attend quelques minutes avant de bouger. Je me dirige vers elle et me baisse pour être à sa hauteur en posant ma main sur son épaule. Elle ouvre les yeux puis se redresse et je l'aide à se remettre debout. Je lui adresse un sourire fier.
Tu as été formidable, Anastasia.
Je la félicite. Elle me prend subitement dans ses bras. Je suis surprise par son geste, mais je ne la repousse pas et la serre contre moi. Elle tremble toujours et se retient de s'écrouler.
Merci, tu m'as sauvé la vie,
me dit-elle avec reconnaissance.
C'est normal.
Elle circule.
Qu'est-ce que ces deux hommes me voulaient?
Me demande-t-elle. J'hésite à lui dire la vérité. Mais sa vie est en danger à cause de moi. Elle a le droit de savoir pourquoi. Ce n'est pas toi qui voulais, mais moi. Il cherchait les résultats de mes analyses. Elle ouvre grand les yeux, choquée.
Mais pourquoi c'est si important? S'ils sont remontés jusqu'à moi, ça veut dire qu'ils sont allés voir le docteur Valli? Est-ce qu'il va bien?
Je détourne le regard à la mention de ce pauvre médecin qui a mal fini. Il a été si bienveillant avec moi et il m'a sauvé la vie. À cause de moi, lui et toute sa famille sont morts. J'aurai leur remords sur la conscience toute ma vie, comme celle de Sam. Il faut absolument que tu partes pendant quelque temps. Tu ne dois parler à personne de cet événement, ni du fait que tu m'as vu, compris? Tu as de la famille qui peut t'héberger? Elle est perturbée.
J'ai une sœur qui vit en Suisse,
me confesse Anastasia. Tu dois quitter la ville dès ce soir. Ces hommes ne rigolent pas, et s'ils apprennent que tu es encore en vie, ils reviendront et ils vérifieront cette fois que t'es vraiment morte. Tu reviendras d'ici quelques semaines, le temps que cette histoire se tasse.
Anastasia hoche frénétiquement la tête.
Je vais poser des congés,
m'informe-t-elle. Il existe des copies de ces résultats d'analyse?
Non.
Je souffle de soulagement. Tu habites loin d'ici? Il faut que tu te changes.
Non, à 5 minutes,
précise-t-elle. Nos chemins se séparent alors. Il vaut mieux qu'on ne nous voit pas ensemble. Fais attention à toi, Anastasia. Elle m'offre un sourire sincère.
Merci encore.
Je hoche la tête et je me dirige rapidement vers ma voiture. Je ressemble à une psychopathe qui se serait évadée de l'hôpital dans lequel elle était internée, avec mes mains et mes vêtements tachés de sang. Heureusement qu'il n'y a personne dans les rues. Je sors la clé de ma voiture de ma poche, puis je la déverrouille. Je monte côté conducteur et je démarre pour quitter cet endroit. Je n'arrive pas à me concentrer sur la route. Je ne fais que penser au corps de la famille du docteur et à ma culpabilité. Je suppose que ce sont les deux mêmes hommes qui sont allés chez lui pour récupérer les résultats, mais ils ne les possédaient plus. Ils ont dû croire qu'il mentait. C'est pour cette raison qu'ils ont utilisé sa famille comme moyen de pression. Ensuite, le pauvre homme, effondré, a dû se rappeler qu'il les avait donnés à sa secrétaire. Ils l'ont alors tué pour ne laisser aucune trace de leur passage. Si je n'étais pas arrivée, Anastasia aurait subi le même sort, simplement pour des putains de résultats. Ces lâches sont forcément à la solde de Monsieur X. Il doit jubiler de savoir que je suis malade et que j'ai peut-être déjà un pied dans la tombe. Il veut les résultats pour avoir encore un coup d'avance et connaître mon point faible. Toutes ces morts qui s'accumulent sont à cause de moi. Le docteur n'était même pas un proche et il a été sauvagement tué pour avoir bien fait son métier. J'ai la haine qui monte en imaginant toutes les souffrances que lui et les siens ont dû endurer. Ces crimes ne resteront pas impunis. Je donne ma parole. Mon seul réconfort, c'est d'avoir pu protéger Anastasia. Je ne voulais pas inquiéter les autres avec ma maladie, mais je suis obligée de leur en parler. Je n'ai pas le droit de garder ça pour moi. Ça serait injuste et égoïste. Je n'ai pas envie qu'ils me mettent de côté ou qu'ils changent de comportement avec moi. Je ne supporterai pas qu'ils éprouvent de la pitié à mon égard. J'ai besoin de savoir si je vais mourir bientôt ou non. Je dois vivre suffisamment longtemps pour être présente pour mes amis et pour les aider à vaincre l'ennemi. 45 minutes plus tard, Villa Ben Khalif, 22h45. Une fois la voiture garée sur le parking de la Villa Ben Khalif, je sens encore l'enveloppe contre ma poitrine. J'hésite à l'ouvrir. Je préfère m'essouffler et mourir sans savoir quand ni pourquoi. Je me souviens du jour où le docteur a voulu m'informer de ce que j'avais. Il semblait choqué. Il avait du mal à trouver ses mots. Cette merde me sera fatale. C'est à moi de choisir si je préfère vivre dans l'incertitude et profiter pleinement du reste de ma vie, ou savoir que je suis condamnée et y penser à chaque instant. Je souris légèrement en regardant la chevalière d'Amir qui orne toujours ma main. Elle n'a jamais quitté mon doigt depuis qu'il me l'a confiée. Elle ne doit pas lui manquer. Il est conscient que j'en prends grand soin et que je veille sur elle. Je l'ai déjà vu, à plusieurs reprises, regarder mon doigt. Dès qu'il constatait que la chevalière était toujours là, il souriait. J'aime Amir Ben Khalif. Je donnerais des millions pour l'entendre dire qu'il m'aime également. Je n'aurai aucun regret à brûler cette lettre. Je sors un briquet ainsi que l'enveloppe toujours cachée sous mon soutien-gorge. Que les flammes effacent le mal que ces résultats pourraient me causer.